Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, David Douillet, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski. Nous avons beaucoup de choses à vous conter en ce dimanche matin. Ça va être une journée, un dimanche de folie. On en profite pour souhaiter une belle fête à toutes les mamans, évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sport, mais il y a aussi nos mamans. Exactement. Donc on les embrasse très fort aujourd'hui.
Alors.
Mais bonne fête, Sarah.
Vous m'avez oublié, mais bon, c'est pas grave.
Bonne fête, ma petite Sarah.
C'est juste, je t'ai pas oublié, c'est juste que je suis pas ton enfant.
Oui, non, je te comprends.
Enfin, je crois pas.
Non.
T'aimerais bien avoir un fils comme moi?
Oui, pourquoi pas.
Oui, pourquoi? D'accord,
mais
sympa.
Je n'échangerai rien pour celui que j'ai.
Non, mais je te demande pas d'échanger tes enfants, dis donc, je suis pas comme ça. Mais je pourrais me faire une place dans la famille Pitkowski?
Oh oui, je pense. Ouais, sans problème.
Ouais.
On aime les blagues foireuses, c'est pas très bon en blague.
C'est comme
blague.
Ça que tu me vois,
ouais,
okay,
ouais, ouais.
Très bien. En plus, j'adore le golf.
Et il sait bien faire les pattes. Et
oui,
les familles de sportifs, on mange beaucoup de pattes.
Ouais.
Bon, la boule, ça lui va. La boule, ça lui va.
Ah oui,
ça
me va. Alors,
c'est pas de problème.
J'ai déjà été invité. Voilà, je vous dis tout, chers auditeurs. Je suis déjà parti chez Sarah. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, dans cette famille, je me sens bien.
Ça m'étonne pas.
Et ben, tu sais quoi?
Boulogne-sur-Mer, moins déjà, mais là.
Alors, si tu m'invites, je viendrai peut-être pas. Bonne fête, maman, donc.
Merci beaucoup, JC.
Dans quelques instants, le bras de fer des GG avec le nouveau duel du tennis mondial. Sinner-Alcaraz, est-ce que cette nouvelle rivalité vous fait rêver? 10h30, la punchline des GG. Si demain je rentrais en politique, ce n'est pas pour être ministre des Sports. Teddy Riner n'exclut pas de se présenter un jour à la présidentielle. Faut-il le prendre au sérieux? On se posera la question et on attend évidemment David Douillet sur ce sujet qui a forcément des conseils à donner. Et puis 10h45, promis, c'est fini. Il y aura enfin du suspense au Grand Prix de Monaco. Une grande nouveauté censée bouleverser la course avec deux arrêts au stand obligatoires. Qu'est-ce que ça change? On posera la question à Jean-Luc Roy. Est-ce que ce Grand Prix peut redevenir sexy? Et puis 11h, évidemment, l'UBB, les amis, sur le toit de l'Europe. Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation d'Albert Camus qui a dit un jour « Il faut savoir se prêter au rêve lorsque le rêve se prête à nous. »
RMC, le bras de fer GG.
Certains enfants sont particulièrement doués.
Sinner qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné! C'est gagné! Yannick Sinner qui s'allonge sur le dos!
Ils ne vont réussir qu'une chose à faire, c'est le mettre en burning out et le dégoûter du tennis.
Leur cerveau semble fonctionner différemment de la moyenne.
Il monte, c'est fini! Attaque gagnant, Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon!
Ouais, non, je... Non.
Non, quoi?
Bon, je... Non, ben non, oui, enfin, oui, non.
On donne aussi à ses enfants l'étiquette de douance ou encore de précocité intellectuelle.
C'est fini! Oh là là! Une leçon tactique, le bal de match résume tout. Il a maîtrisé de A à Z son tennis.
On va pas jeter bébé, l'eau du bain, la grand-mère dedans et la poussette dans la rivière.
Deuxième balle de service. Et dedans, sur le revers de Govi filet.
C'est gagné pour Carlos Alcaraz à l'issue du final parfaitement maîtrisé.
Même lui, peut-être, s'est dit, je me fais chier, quoi. Parce que il n'y avait pas d'adversité. Donc là, il en trouve et il va se chercher des challenges à lui pour continuer à entretenir cette flamme.
À toutes les GG, on en prie pour leur grade. Vous embrasserez Kylian Vérov, évidemment.
Le burning out.
Le producteur de cette émission.
Et puis, la poussette dans la rivière,
non? Et puis, on n'a pas retrouvé la poussette. Non, il n'y avait pas les cordages. Il n'y avait rien.
Avec les phares allumés.
C'était la belle époque. Et puis, cet échange savoureux avec David Douillet, c'est vrai, on s'est parfaitement compris. Alors les rois sont morts, vive les rois. Pour la première fois depuis des lustres, ni Nadal, ni Federer, ni Djoko ne seront favoris de Roland-Garros. Et pour cause, évidemment, notamment pour Nadal et Federer. Les trois monstres ont été remplacés par deux cadors, les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. La naissance d'une rivalité, peut-être, qui est née après la finale du Masters 1000 de Rome la semaine dernière. L'Espagnol mène la danse au jeu des confrontations. 7 victoires contre 4 pour l'Italien. Alcaraz Sinner ne se sont encore jamais rencontrés en finale d'un grand chelem. Le duel Alcaraz Sinner vous fait-il rêver? C'est notre débat ce matin. Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Sarah Pitkowski et David Douillet. Dans le coin droit, la team Non, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. La team Vélo n'est pas encore convaincue. Avant de débattre, on va retrouver évidemment en direct de Roland notre spécialiste tennis, Eric Salio, qui vit des beaux jours de mai, comme d'habitude. Salut Eric.
Bonjour à tous.
Salut Eric.
Oui, il pleut.
Salut. Oui.
Je sais pas, je suis sur le central, ils ont mis le toit, oui, mais ce matin, quand je suis parti de chez moi, il pleuvait, oui.
Très bien. Ah, il est sur le central. Et oui, forcément.
Pardon,
Eric,
excuse-nous du peu.
Bah, Eric est sur le plus grand cours du monde. Ce sont les deux nouveaux monstres du circuit, hein. Ça, il faut bien l'avoir en tête, Eric.
Oui, alors qu'ils sont encore très jeunes, hein. Yannick Sinner et Carlos Alcaraz se sont déjà affrontés 11 fois. L'historique de leur finale ressemble d'ailleurs à un scénario imaginé par l'ATP. Finale en 250, finale en 500 et enfin, dimanche dernier, la finale du Masters 1000 de Rome. Carlos Alcaraz est conscient que le circuit est pas loin d'être construit autour d'eux.
Les rivalités ont toujours suscité beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme pour le public. Vous l'avez dit, il y a eu Borg, McEnroe, Roger et Rafa, Djokovic et le Big Three qui ne cessaient de se défier. J'ai l'impression que les fans sont excités de voir nos matchs avec Yannick parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'attendre à un haut niveau de tennis.
Tous les opposent en termes de personnalité et de jeu. Né dans les montagnes, Sinner est plutôt froid et chirurgical, alors que l'enfant de Murcie est romantique et possède une palette de coups insensée. Maintenant, pour qu'il y ait une rivalité, il faut un échange de victoires. Et dans ce domaine, le scénario dérape un peu, car Carlitos a remporté les 4 derniers matchs. Et pas sûr que l'Italien, plombé par son affaire de contrôle antidopage positif, soit adulé à Paris comme il a été à Rome.
Écoutez, ça sera totalement différent de l'atmosphère de Rome. Je ne pense pas que le public français a quelque chose contre moi. C'est normal qu'ils supportent les joueurs français qui jouent chez eux à domicile. Je sais un peu à quoi m'attendre pour ce premier match. On verra bien. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question.
Roger Federer et Rafael Nadal n'ont jamais eu l'occasion de se jouer à l'US Open. Prions pour que la première finale de Chelem commune de Sinner et Alcaraz ait lieu le dimanche 8 juin. Sur le Châtrier.
Merci beaucoup Eric Salio. Tu restes avec nous pour ce débat. Le duel Alcaraz-Sinner vous fait-il rêver? On vous a posé cette question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. C'est extrêmement serré. C'est à ça qu'on reconnaît un bon duel, les amis. 48%.
J'ai pas voté encore.
Contre 52%. Vous êtes devant Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. 52% non, 48% oui. Sarah Pitkowski, tu commences ce débat. Pourquoi oui?
Pourquoi oui? Parce que si on revient un an en arrière, la demi-finale de Roland-Garros qui s'est jouée entre Alcaraz et Sinner s'était terminée avec un 6-3 au cinquième set face à la victoire d'Alcaraz, 6-3 au cinquième. Et on a vu quelques avant-goûts de ce qui pourrait être ce duel entre ces deux hommes qui ont quasiment le même âge à un an près, Sinner à 23 ans, Alcaraz 22 ans. Et pour qu'il y ait des bons duels, il faut des oppositions de style, Eric le disait. Et ces oppositions de style, tu peux quand même facilement les comparer à un Federer-Nadal. Tu as le ténébreux, espagnol, Alcaraz, presque volcanique, où tu sens que émotionnellement ça peut monter, ça peut descendre, face à Sinner qui est italien, mais plutôt côté germanique, ce sang-froid, cette vitesse.
Ouais, je te confirme, bien côté germanique.
Oui, bien côté germanique. Je veux dire qu'il transpire pas l'italien dans toute sa splendeur. Ben, on est bien d'accord, c'est pas Berrettini hein, ou Musetti. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette opposition et de tennis et de caractère, mais même de physique. Et je pense qu'il y a vraiment tous les ingrédients qui font que ce duel peut exister. Alors tu me dis, Eric, tu disais oui, c'est mal barré parce que finalement Alcaraz mène déjà largement, mais Nadal menait aussi largement face à Federer dans les confrontations. Ça nous a pas empêché de nous enthousiasmer pour ces deux hommes. Et je suis très très friande de voir ce qui va se passer sur Roland-Garros et je rêve vraiment d'une finale entre les deux, vraiment. On en a eu peu hein, entre Nadal et Federer, entre ces deux hommes à Roland-Garros. Sinner, c'est un bon joueur de terre battue, un très bon joueur de terre battue, peut-être mieux que Federer sur terre battue. Donc je suis
très impatient. Il faut qu'il y ait un départ là. Et pour toi, c'est sur Roland-Garros qu'il doit y avoir un départ. Ok, il n'est pas impatient parce que ça ne le fait pas rêver pour l'instant.
Mais
Jérôme Pinault.
C'est un grincheux.
Non, mais ça ne me fait pas rêver.
Je t'ai pas fait changer d'avis là?
Pas du tout. Mais Alcaraz, Sinner,
chou blanc.
Alcaraz, oui.
Je vois ça.
À l'avenir, sur terre et quelque part, il a l'héritage de Rafa Nadal. C'est l'espagnol, comme tu dis, ténébreux, volcanique. Nadal n'était pas comme ça, mais ça reste un espagnol et la terre appartient à l'Espagne. Il a longtemps appartenu à l'Espagne. En revanche, Sinner, non, j'adhère toujours pas. Je l'ai encore en travers de la gorge. Je peux pas m'enthousiasmer sur un éventuel duel sur un type qui, pour moi, n'a pas montré pâle blanche et qui a été jusque-là quand même entaché d'un vrai problème si ce n'est dopage, mais en tout cas par un médical. Ça me gêne beaucoup. D'ailleurs, il le dit lui-même en interview, il ne sait pas à quoi s'attendre, il ne pense pas que le public, on va voir, mais à mon avis, il ne va pas être accueilli comme à Rome, ça c'est sûr.
Ah, en plus, il affronte beaucoup de Français. Hein.
Et j'espère aussi qu'il y aura d'autres protagonistes. Ça ne m'enthousiasme pas parce que ça sent un peu la naphtaline, le truc avec Sinner.
Oh non.
Si.
Mais comment tu peux dire naphtaline?
Sinner, c'est lisse. C'est, ça dégage rien.
Mais Federer, il était pas lisse.
Mais il y avait Nadal en face et ce duel-là était du très très haut niveau.
Ben oui, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais laisse-les grandir. Ils ont 22 et 23 ans.
J'ai pas trop envie de laisser grandir un mec qui s'est foutu un peu de la gueule du monde quand même. Non,
il s'est
lui,
foutu de la gueule du monde.
Si, un peu Sarah quand même. Un peu. On a eu quand même quelques spécialistes du dopage dans ce studio.
Ils nous ont expliqué.
Qui t'ont expliqué que s'il avait voulu prouver son innocence, il l'aurait pu le faire. Là, il n'a pas été jusqu'au bout des choses. Donc, il est entaché de ça et c'est pour ça que pour le tournoi, moi, je vais m'enthousiasmer sur les matchs de Alcaraz, peut-être, des Français, évidemment. Et si.
Alors, tout à l'heure. Avec les Français, c'est que ça ne va pas durer longtemps.
Oui, mais le peu que ça va durer. D'ailleurs, on s'enthousiasme aux qualifications maintenant, quand on est Français. Comme ça, au moins, on a un peu de temps pour s'enthousiasmer. Après, voilà, tout à l'heure, tu m'as cassé mon rêve de voir d'autres joueurs pouvoir arriver très haut dans ce tournoi, mais j'espère qu'il y aura autre chose à gratter qu'un Alcaraz Sinner, parce que ça me fait pas plaisir.
Ok, David Douillet, il est d'accord avec Sarah. Pour toi, c'est oui, ça te fait rêver ce nouveau duel.
Ouais, bon, Jérôme a pas tout à fait tort, mais malgré
quoi
tout.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu retournes ta veste?
Non, je retourne pas ma veste, mais laisse-moi terminer ma phrase quand même, Sarah.
Un mot déjà.
S'il te plaît. Merci. Non, mais le truc, c'est que moi, je suis pas dans le passé, ok. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il va être contrôlé 250 millions de fois, peut-être même plus que les autres. Et j'espère que ce joueur sera ou est déjà totalement clean et qu'il n'y a pas de débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tennis aussi. Si le gars est honnête dans sa pratique, son entraînement et puis ses agissements, après, c'est le tennis, c'est la qualité du jeu déployé par les deux. Or là. Là, je suis désolé, les ingrédients, ils sont là. 22, 23 ans, c'est la nouvelle génération qui arrive. Là, pour Roland-Garros, ils sont tête de série numéro 1, numéro 2. Ils ont toutes les chances de se retrouver en finale. Enfin, moi, j'adore. Voilà, je trouve que on n'a pas à attendre qu'une nouvelle génération s'installe après les grands ténors que fut Djokovic, Nadal, Federer, etc., etc. Non, ils sont déjà là. Ils sont déjà là au premier plan. Et ils sont déjà là, tous les deux, et ils ont déjà construit leur histoire. Pour moi, la légende, parce que je parle de ça, le début de la légende, Sinner Alcaraz, elle a déjà commencé avec des matchs géniaux. Moi, je me souviens d'un match, il y a deux ou trois ans, où ça s'est terminé au cinquième set. Il y a Alcaraz qui sauve une balle de match. Ils se déchirent la tête tous les deux et c'est Sinner qui gagne. J'ai plus le nom du tournoi, mais enfin bon, peu importe. Ça m'avait passionné déjà. C'est l'US Open, voilà. Ça m'avait passionné. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ces deux-là, ils sont déjà là, les gars.
C'était en pleine nuit, t'es pas beaucoup dormir. Hein.
Comment ?
C'était en pleine nuit, t'étais pas beaucoup dormir.
Non, mais excuse-moi, ça m'arrive.
Bah, il bosse aussi, David. Hein.
Je ne fais pas que dormir.
Tu rentres de boîte de nuit, il se met devant le tennis, quoi.
Non, puis il y a le replay, enfin, je sais pas. Enfin, je te montrerai comment ça marche. bref, donc non, mais toujours est-il que pour moi ça m'enthousiasme. Voilà, pour moi je suis heureux de retrouver, parce que le tennis il a besoin de ça, il a besoin de se dépoussiérer, il a besoin de gens.
Ben justement, David, est-ce que c'est pas parce qu'on a besoin qu'on se focalise sur il faut que ce soit un super duel, il faut qu'on. Est-ce qu'on n'est pas
mais
en train
tu
de
l'as
se raconter...
enfin,
non, mais tu non, l'as.
Ils ont déjà, ils ont 7 grands chelems à eux deux. Effectivement, sûr, pour l'instant. Bah, tu sais, c'est comme le cyclisme où les meilleurs s'affrontent.
Ouais, pas...
Non, mais où vous attendez qu'ils s'affrontent et finalement ils ne sont pas sur les mêmes courses. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas systématiquement en finale. Bah, parce que depuis 2 ans, bah, ils ont. Il y a eu.
Mais on a envie, pour qu'il y ait un duel, il faut qu'ils se rencontrent souvent en finale.
Effectivement, mais aujourd'hui, les ingrédients sont là.
Dans 10 jours.
Ouais.
10 jours quoi?
Pogacar,
ouais.
Evenepoel,
ouais. Bah, il s'est Lingegaard comme ils
seront opposés tous les trois.
Ok. Et depuis combien de temps on attend qu'ils soient tous les trois au top de leur forme?
Et ben
c'est ça le moment magique du tennis.
Mais c'est si alors le Sinner Alcaraz.
évidemment, c'est le match, c'est la nouvelle rivalité qui va monter, mais je trouve qu'il n'y a pas de passion non plus là-dedans. Il n'y a pas de passion, c'est parce que cet Ostrogo qui n'a rien de sicilien, qui n'a rien
de t'as pas dit qu'il devait être sicilien, il est dans le Tirol.
Il me procure rien, quoi, si tu veux,
Et Alcaraz, il te procure rien?
Alcaraz, Alcaraz, mais justement,
souviens-toi. Dans un duel, il n'y a pas de deux.
Toi qui étais né à cette époque, souviens-toi d'Ivan Lendl. C'était un peu ça.
Je détestais Ivan Lendl.
Mais moi, j'adorais justement.
Parce que. C'est l'homme que tu préférais détester, Lendl.
Ben oui, dans Michael Chang, j'en préférais
Michael Chang lui faisait des services à la cuillère, mais moi je me délectais. Et ben j'espère qu'Alcaraz va lui faire des services à la cuillère. Et
qu'il
va
se faire. Et ben voilà. On s'en reparle le 8 juin prochain. Si ces deux-là sont en finale, je veux que ce soit enregistré et qu'on rediffuse ce qu'ils ont dit.
Mais avec grand plaisir, évidemment. On fera peut-être.
Ça n'aura pas changé un iota.
Tout dépend de leur parcours. Je vous propose d'écouter Yannick Sinner en conférence de presse parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant et peut-être que ça peut vous convaincre, Jérôme et Christophe. Écoutez Yannick Sinner.
Nous sommes des joueurs de tennis et c'est notre priorité, mais d'un côté j'ai l'impression que les fans ne me connaissent pas en tant que personne. Je suis très sérieux sur le terrain, mais en dehors j'aime plaisanter, rire et sourire. J'essaye de faire comprendre aux gens que je ne suis pas une machine, mais une personne normale.
La personnalité de Yannick Sinner, Christophe.
J'adore faire des petites blagues.
On peut être sérieux ou pas? La personnalité de Yannick Sinner, est-ce que t'attends que ce joueur se révèle pour pouvoir l'aimer ou le détester,
jour,
comme tu veux?
Peut-être un jour, il va se révéler.
Mais après, il y a des sportifs ou des athlètes ou des stars qui se révèlent au fur et à mesure de leur carrière. Moi, il y en a un que je détestais au début et qui, à la fin de sa carrière, était mon idole. C'est un certain André Agassi. C'est-à-dire que quand il est arrivé sur le circuit avec ses shorts en jean, avec son bandeau fluo,
d'entrée de jeu.
Eh bien, en fait, il me gênait différent. Parce qu'il cassait les codes. Et en fait, tu as vu quelqu'un se bonifier. C'est-à-dire, tu as compris son histoire. Tu as vu comment il a utilisé le public. Cet homme-là est devenu meilleur avec le tennis, avec sa carrière. Il a perdu ses cheveux. Mais laissons le temps aussi. Je veux dire que tu n'es pas champion et puis superstar des réseaux sociaux et puis super emblématique. Enfin, je veux dire, on leur demande avant tout et au début d'être des champions. Il est en train de se construire. Sinner est en train de se construire. Oui, quand il dit ça, excuse-moi, c'est conférence de presse, c'est monocorde. Son tennis est juste extraordinaire.
David Douillet.
J'espère que Sinner va rester froid, va rester imperturbable, glacial, parce que c'est ce qui fait les histoires. Si vous avez toutes les mêmes personnalités, si les joueurs sont tous comme Alcaraz ou sont tous des rêveurs romantiques ou extravertis, etc., ça n'a pas d'intérêt, ils s'annulent les uns les autres. Or, lorsqu'on a des personnalités différentes et totalement clivantes, ça rajoute à la légende, ça rajoute à l'histoire. On va aimer plus l'un, on va aimer plus l'autre. Et on va dire, ça c'est le gentil, ça c'est le méchant, et ça l'histoire elle est écrite. C'est le meilleur scénario qu'on puisse avoir.
Et puis il y a cet espoir, mais bon, malheureusement il a été un peu battu en brèche depuis quelques semaines, mais cet espoir, Arthur Fils, qui lui a une véritable personnalité, qui a un jeu spectaculaire et qui est français et qu'on aimerait bien qu'il parvienne à chatouiller les géants, et ça ce serait vraiment excitant, parce qu'il y en a marre aussi des affrontements entre joueurs étrangers. On aimerait bien enfin avoir un joueur français capable de se mêler, capable de dépasser le vendredi de la première semaine et nous régaler en deuxième semaine.
Franchement, tennis, cyclisme, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Heureusement qu'il y a David pour nous apporter des médailles avec évidemment tous ses successeurs.
Il y a eu deux médailles pour le cyclisme français cette année aux Jeux Olympiques.
Bravo, et ce n'était pas les médailles d'or. Tu parlais de Arthur Fils qui pourrait affronter si les planètes
tour.
En huitième de finale. Yannick Sinner pour Arthur Fils.
Il va tomber. En plus, il va pas être très populaire parce qu'il va se taper tous les Français et il va tous les sortir en 4 jours.
Ça commence par Arthur Hilderknecht au premier tour face à Yannick Sinner.
Et peut-être
Il est largement au-dessus, David. Quoi.
Et donc en huitième de finale, ouais, Yannick Sinner peut-être.
Ne tirez pas des plans sur la comète.
Face à Arthur Fils. J'essaye de reprendre la main, les amis. Pas tous en même temps, parce que je voudrais que Eric Salio puisse nous conter le programme du jour, la première journée de Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater?
Écoutez, on va suivre le déroulé du central parce que on attend tous la cérémonie d'hommage à Rafael Nadal. Elle interviendra donc à l'issue des trois matchs du central. Donc à midi, Arina Zabalenka contre Kamila Rakimova, suivi d'un autre simple dame. Ensuite, il y aura Lorenzo Musetti contre Yannick Hoffmann. Et ensuite, donc je peux pas vous donner d'horaire, bien sûr. Hein, ensuite, donc ce sera la cérémonie pour Rafael Nadal. Côté français, ils sont cinq au programme. Vers 13h, Giovanni Pecci-Péricard contre Zizou Berg. Ça, c'est un match à ne pas manquer sur le cours Suzanne Langen. Quentin Lee jouera en fin d'après-midi contre Thomas Marrache. Il y a une petite qu'il faut suivre, c'est Sarah Rakotomanga qui jouera contre une Espagnole. Et puis il y aura deux Français, Valentin Royer et Kyrian Jacquet. Ils sont cinq et basta. Et demain, lundi, on aura Gasquet, Sinner et Alcaraz.
Parfait. Et puis on pense à Novak Djokovic qui a remporté le 100e tournoi de sa carrière hier à Genève. Et c'est quand même une information importante.
Il sera sur le cours pour la cérémonie de Raphaël Nadal aux côtés d'Andy Murray et de Roger Federer qu'on a pu voir à Roland-Garros depuis un petit moment.
Exactement. Donc si j'entends bien.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Mais arrêtez de dire les secrets de cette cérémonie là.
Mais j'ai envie d'être surpris.
On nous a refusé un invité hier parce qu'on avait peur qu'il balance ce qui allait se passer sur le central cet après-midi.
Ça vous semble pas une cérémonie?
Et quand tu gérais la com de la Fédé, c'était autre chose quand même.
Ok. C'est dissipé les amis. On reparlera de l'hommage à Rafael Nadal aujourd'hui. Évidemment, c'est le premier temps fort de ce Roland Garros 2025. On revient dans quelques instants. C'est la musique de la Ligue des Champions. Oh non, tu n'as pas gagné. Ce n'est pas encore tiré au sort. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Vivre la finale de la Ligue des Champions PSG Inter Milan. C'est samedi soir prochain. Le vol, l'hôtel et vos deux billets. C'est deux places.
Moi, je pars avec celui qui gagne.
PSG au 732-16. 10h28, vous avez jusqu'à 10h33, les amis. Ça peut, vous aussi, vous arriver.
On fait 732-16, c'est ça?
Exactement, et tu envoies PSG. Voilà.
Allez, à tout de suite. Comment fonctionne ton téléphone?
Bonne chance à tous. Oui, et comment marchent les jeux, parce qu'il n'en fait jamais quand il anime. C'est fou, ça. Tu le sais, quand même.
Oui, mais j'ai jamais gagné. Donc.
Allez, Teddy Riner, qui pourrait se lancer en politique. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h31, de retour dans les grandes gueules du sport avec David Douillet, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinon prendra la direction de Monaco dans une dizaine de minutes pour le Grand Prix de Monaco qui pourrait être extraordinaire pour une fois, on l'espère évidemment les amis, avec ce nouveau règlement et ces deux arrêts au stand obligatoires. On va tout vous raconter, ça c'est dans 10 minutes. Teddy Riner va-t-il se lancer en politique? Je vais même aller plus loin. Teddy Riner va-t-il se présenter un jour pour la présidentielle? Le champion français ne s'interdit rien après sa carrière de judoka. Cette semaine, il était l'invité d'honneur du sommet Chose France à Versailles, un rendez-vous annuel sur l'économie avec des industriels, des investisseurs et des chefs d'entreprise du monde entier. Devant le château de Versailles, Teddy Riner a fait une déclaration, peut-être une déclaration présidentielle, on ne sait pas. Il a dit ça, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Peu importe le domaine dans lequel je vais me lancer, ça sera pour gagner, voilà. Et y compris en politique. Et je crois que lorsqu'on fait de la politique, le champion c'est lequel? C'est être président. Donc voilà. Si un jour je me lance, ça serait pour être président, oui. Peu importe ce qui s'offre à moi, bah, je vais travailler pour être le meilleur. Et j'ai pas de montagne trop grande. Si demain j'ai envie de me lancer, alors je ferai ce qu'il faut.
Notre débat, vous avez bien entendu notre champion français, Teddy Riner, qui pourrait se lancer en politique. Et s'il se lance en politique, c'est pour devenir président. Faut-il le prendre au sérieux? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui, bah, il a l'air convaincu par son truc.
Ok, c'est plutôt oui.
Que ce soit une fantastique idée.
Ah, mais... ça c'est autre chose. Mais moi, il était convaincu, c'est plutôt au sérieux. Sarah Pitkowski.
Plutôt non.
Plutôt non. David Douillet.
Ah oui.
Ah oui, ok. Jérôme Pinault.
Ben malheureusement, oui, faut le prendre au sérieux, mais c'est vraiment pas une bonne idée.
Ok, je vois que l'axe vélo marche très bien ce matin. Vous êtes d'accord, les amis?
On va s'ennuyer dans nos débats pendant tout le mois de juillet, si on est d'accord sur tout.
Ah, moi, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Moi, Christophe, qu'est-ce que je t'aime et tout ça.
Ça va.
Je vous rassure, on est loin d'être d'accord sur tout.
David Douillet, sur ce débat, évidemment, toi aussi, grand champion de judo, toi aussi qui as fait de la politique, toi qui as été ministre des Sports, tu le prends au sérieux, Teddy Riner?
Oui, je le prends sérieux parce que vous savez que ce soit Teddy ou moi ou n'importe quel autre champion, si on vous dit au moment où vous commencez à rêver de quelque chose, c'est-à-dire à la période où vous commencez à prendre conscience à l'adolescence, si on avait dit à Teddy tu vas être multiple champion du monde, multiple champion olympique, etc., etc., est-ce que ça va arriver? Il aurait répondu la même chose. Il aurait dit oui. Et je vais mettre tout en œuvre pour que ça arrive. De la même manière. C'est-à-dire que là, on lui pose une question. Est-ce que vous seriez intéressé par la politique? Et il a dit, si je pars en politique, c'est pas pour faire de la figuration. Comme c'est le même état d'esprit qu'il a et qu'il a eu lorsqu'il était enfant en disant, si je fais de la compétition, c'est pas pour faire de la configuration. C'est un mode de pensée, en fait, qu'il a décrit. Et je suis complètement raccord avec ça. C'est complètement logique avec sa personnalité. C'est normal qu'il dise ça.
Oui, mais il dit pas ça juste au détour d'une question d'un journaliste. C'est-à-dire que sur un plateau télé, il a répété cette volonté en disant oui, la politique, c'est possible et c'est pour aller à la présidentielle. C'est quand même quelque chose, David. C'est pas juste, ah oui, c'est un grand champion, donc il rêve plus grand.
Non, mais je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que c'est dans sa mécanique intellectuelle. La mécanique intellectuelle d'un grand champion, c'est ça. Voilà. Après, il fera le parcours qu'il fera, s'il fait de la politique ou s'il est chef d'entreprise ou peu importe. Mais en tout cas, elle est emprunt à la même mécanique qui fait que aujourd'hui c'est un très grand champion. Et c'est normal. Moi, ça m'a pas du tout surpris et ça ne me choque pas du tout d'entendre ces propos-là. C'est logique. Voilà. C'est son ADN qui parle. C'est sa façon d'être qui parle. Alors bien sûr. Tout ça, il n'a pas été champion du monde du jour au lendemain. Il y a eu un parcours, il y a eu des étapes. Et s'il s'engage,
oui, bah justement, des étapes. Oui, des étapes.
Il y aura évidemment tout ce parcours qui va se construire avec des étapes, etc. Mais au final, c'est pour aller chercher peut-être la grande,
la plus haute fonction,
la plus haute fonction.
Voilà. Tu accepterais d'être son ministre des sports s'il devient président de la République?
Mais moi, je ne ferai plus de politique.
Ah bon?
J'ai fait 10 ans. C'est mon choix personnel. J'ai fait de la politique pendant 10 ans. J'ai vu, j'ai compris. J'ai fait partie de
Bah justement, appelle-le, dis-lui, va pas. Vas-y, pas.
Comment?
N'y va pas.
Appelle-le et dis-lui, n'y va pas. C'est mieux.
Jamais de la vie, je dirais ça.
Ah bon?
Mais j'ai pas le droit de décider de la vie de quelqu'un. C'est ridicule. Moi, si on m'avait dit, surtout, David, fais pas de politique, j'aurais dit, mais va te faire voir, je fais ce que je veux.
Quand tu t'es lancé en politique, tu avais déjà des aptitudes politiques, tu t'intéressais à ça depuis longtemps, non, David? Ou alors tu es arrivé comme ça, tout frais, tout neuf dans
le système? Et puis t'es passé par autre chose, t'es passé par t'as été aux affaires étrangères.
D'accord, je suis d'accord. Mais d'abord, pour moi, la politique, le principal en politique, c'est d'aimer les gens et d'aimer son pays. Voilà, ça c'est la base, la première chose. Bon. Ensuite, t'as ton expérience personnelle. Et ensuite, t'as ta stratégie personnelle. Moi, j'ai voulu faire la politique pour rendre à mon pays ce qu'il m'avait donné. Parce que je me suis rendu compte que, en voyageant dans le monde entier, c'est une chance incroyable que de vivre en France, d'être un gamin, et sous les ailes de la République, ton pays t'offre l'occasion, te donne les moyens pour accéder à tes rêves. Donc voilà, c'est ça le truc. Maintenant, il a peut-être d'autres motivations. Et de toute façon, moi, ma stratégie, elle était de rentrer par la petite porte en me présentant à une élection, en devenant député, parce que je considérais que il fallait que j'apprenne les codes, il fallait que j'apprenne le langage, il fallait que j'apprenne tout court. Alors, avec mon bagage d'avant, évidemment, mes différents bagages d'avant que j'allais additionner à ça pour faire mon parcours. Mais quand je me suis engagé en politique, moi, j'avais pas envie, ou j'avais pas prévu, ou j'avais pas ambitionné d'être président de la République. Je voulais simplement rendre à mon pays ce qu'il m'avait donné. Mmh. Ce qui est déjà pas mal, hein.
Ouais.
Okay. On a des approches différentes.
Est-ce qu'il t'a demandé conseil? Est-ce qu'il t'a appelé pour te dire, David, voilà, j'ai envie de faire de la politique, quels sont les pièges à éviter?
À ce stade, non. On a eu des discussions, mais il y a très longtemps, sur ces sujets, parce qu'il m'a dit, mais pourquoi t'as fait de la politique? Alors, je vais expliquer un petit peu ça. Peut-être que ça commençait déjà à germer dans sa tête, mais pourquoi pas? Je veux dire, le problème d'un athlète, et vous le savez tous, vous qui êtes sur le plateau, c'est après, on fait quoi? qu'est-ce qu'il y a de plus excitant, qu'est-ce qui va donner un sel à sa vie, qui va vous permettre de continuer à grandir.
Ah bah là, c'est la sûr que le président de la République, oui, t'as raison, mais c'est là, c'est voilà, sûr que viser la présidence de la République, c'est...
Parce que pour un athlète de haut niveau, le pire, c'est l'ennui. C'est de faire des trucs qui semblent fades, insipides, incolores, inodores. Et je pense que Teddy est dans cette phase où il commence à se rendre compte que, bon, bah, évidemment, il est plus vers la fin qu'au début, et qu'il va falloir commencer à tuiler une deuxième vie, et pourquoi pas la politique, parce qu'il sent de manière intuitive que c'est un domaine dans lequel il pourrait retrouver de l'adrénaline, de l'engagement, de la motivation, etc. Okay. C'est pas exclure. Et c'est pour ça que je le prends au sérieux.
Votre regard, les GG, Sarah, tu le prends pas au sérieux?
Je le prends pas au sérieux parce que dans ses propos, il y a quand même des choses que je trouve peut-être pas teintées du bon état d'esprit. Quand il dit quand il s'engage dans quelque chose, il veut être champion, je l'entends tout à fait. Être président de la République, la définition d'être le champion, enfin c'est pas ça que j'estime être le président de la République, c'est servir les Français. Et la politique, c'est pas comme le sport. C'est-à-dire que les règles, elles peuvent être édictées, mais alors c'est ça, celui qui retourne sa veste le plus vite possible. Donc de toute manière, la politique aujourd'hui, c'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir qui n'est pas du tout basé sur les codes du sport.
Mais ne rentrez pas dans cette caricature. C'est pas
mais
parce
si,
que
je vais rentrer dans cette caricature. La reconversion politique, que... quand je l'entends dire, pardon, mais on est dans du basique. Alors moi, la politique, je la vois. Il faut faciliter la vie des entrepreneurs et il faut faire moins de taxes. Et oh, sérieux. C'est notre pays, il en est où aujourd'hui?
C'est un bon début.
Sérieux, mais moi aussi je peux te le dire qu'il faut moins de taxes, je suis entrepreneur. Donc je veux dire, moi aussi je peux te le dire. Et j'envisage pas d'être président de la République.
Enfin, aujourd'hui, n'importe qui ne pourrait pas prétendre être président de la République.
Mais regarde comment elles se passent les élections, tout est manipulé. Enfin, je veux dire, c'est.
C'est le peuple qui vote, je suis désolé. C'est le suffrage universel.
Suffrage universel, t'as raison. Mais pour être candidat de ton parti, déjà, il faut te lever tôt. Enfin, je veux dire,
De quel parti? Est-ce que Teddy a dit que tu fais partie de tel ou tel parti?
Sans parti derrière, sérieusement. Sans parti derrière, tu ne peux rien faire en politique. Ça, c'est la vérité. C'est faux.
Emmanuel Macron est devenu président de la République.
C'est l'exception qui confirme la règle. Il a créé un parti. Il a créé un parti avant de devenir président de la République.
Après il a créé un parti, mais il est parti sans parti.
Non, il a créé un parti et il s'est présenté.
Il a créé un parti parce qu'il y avait un vide, et tout le monde en tire les conséquences aujourd'hui. Tout
il
n'est
pas parti d'un parti existant. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oui, ça c'est sûr.
On va pas parler
dans cette démarche-là.
Il faut pas confondre.
C'est pas la politique, c'est du fonctionnement politique.
En tout cas, j'ai l'impression qu'il. Enfin, en tout cas, de ma perception, c'est quelqu'un qui a déjà anticipé sa reconversion, puisqu'il investit depuis des années dans diverses activités, que ce soit dans la mobilité, le textile, la restauration. Il a monté une agence de conseil fiscal pour les sportifs avec Tony Parker. Il s'est déjà diversifié. Il a probablement pris plein d'expériences, mais la politique, c'est autre chose. Et puis... Tu vas dans un domaine que tu connais aujourd'hui, le nombre d'anciens sportifs qui ont été ministres des sports, c'est parce qu'on a utilisé les connaissances et l'ADN du sportif pour essayer que le sport prenne une place dans notre quotidien en France. Et c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, aujourd'hui, moi, je le prends pas au sérieux sur le côté politique autre qu'un ministère des sports, parce qu'il a dit clairement, moi, je veux pas être ministre des sports.
Ok, Jérôme Pinault, rapidement, parce qu'après on nous appelle à Monaco, il y a le Grand Prix de Monaco et on a encore beaucoup de choses à vous raconter.
Non mais moi je vais être rapide, quand il le dit, oui, parce qu'il est manipulé et parce que l'ego, c'est un grand champion, donc évidemment...
Il est manipulé par qui? Il est manipulé par personne.
D'accord, bon, il n'est pas manipulé, je trouve pas une bonne idée. Non, écoute, si tu dois savoir, moi je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un athlète olympique aimé de tout le monde.
Jérôme,
et que le jour où il va entrer en politique, il va diviser. Et je pense qu'il a autre chose, et il a beaucoup de choses avec l'image qu'il a à œuvrer, pour le sport, pour l'Olympisme, pour la jeunesse. Il peut faire plein de choses autres que ça. Mais encore une fois, moi, je ne m'en cache pas, ce milieu-là me dégoûte et je trouve que c'est mieux de pas y aller, et parce que je les ai côtoyés, parce que il y en a pas un qui vaut plus que l'autre, mais ça reste que mon avis, évidemment. David, tu diras
Jérôme,
pas ça.
Il en faut Il en faut des politiques.
Bah, je sais pas, vu le bordel que c'est, alors qu'il y en a, je suis peut-être, oui, mais... sans eux, ce serait peut-être mieux, mais.
Mais sans c'est... eux, mais, non, mais
il
même,
faut quand
mais
même que
sans
les eux. Les gens gèrent la société, quand même, tu veux.
Sans, oui, sans, non, mais... Voilà, c'est ça. Il faut des gens qui gèrent la société. Et que, qu'ils aient fait de la politique ou non, tu deviens un homme politique lorsque tu prends un poste.
Ah oui, et c'est là que tu commences à changer.
Ouais. Mais non, mais enfin,
on va pas avoir ce débat. On va pas avoir ce débat sur comment on devient homme politique et tout ça, parce non, que malheureusement, on a plus de temps et on a plein de choses.
Teddy Riner est une telle personnalité qu'il a plein de choses à faire d'autres que ça, c'est sûr.
Ok, Christophe, tu veux ajouter quelque chose ou pas?
Non, je veux dire attention à Teddy, parce qu'on sait que quand tu rentres en politique, t'es attendu. D'abord, on se sert de toi, on utilise ton nom, on utilise
ton image,
ton image, et que derrière, lorsque tu commences à faire beaucoup de vagues, beaucoup de bruit, eh bien, ce monde-là est impitoyable et ce monde-là te broie et a broyé un paquet de gens qui ont tenté de rentrer là-dedans. Quand tu t'approches un peu trop du soleil, ces gens-là, depuis leur naissance, ils sont faits pour flinguer tout autour d'eux. On leur apprend à le faire à Sciences Po, on leur apprend à le faire à l'ENA, on leur apprend à le faire quand ils rentrent dans les grandes administrations. Et quand tu arrives là-bas, tout Riner que tu sois, tout plus grand champion de la Terre, eh ben tu te retrouves face à des killers et tu fais pas le poids.
Ben voilà, mais si, tu peux, c'est clair.
Mais en tout,
rapidement,
si je
David,
peux ajouter quelque chose.
Très rapidement.
Moi, je voudrais juste parler du poste de président. Quand tu te présentes et que tu deviens président de la République, tu ne t'appartiens plus. C'est-à-dire que toute ta vie, à partir du moment où tu es président, et après...
Est-ce qu'il a envie de ça, Teddy?
Bah, quelque part, un grand champion, à un moment donné, ça, ne s'appartient plus aussi.
Question.
Eh ben, on lui posera la question, les copains.
Mais la vérité, elle est là.
10h45, on se retrouve dans quelques instants. Grand Prix de Monaco, les deux arrêts au stand, ça y est. Ça va bouleverser la course. Est-ce que vous y croyez? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, David Douillet, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. À partir de 11h, évidemment, l'UBB sur le toit de l'Europe. On va parler des Bordelais qui ont remporté leur premier trophée de leur histoire. Est-ce qu'ils sont désormais favoris pour le top 14? Ça y est, est-ce qu'ils commencent à passer tout doucement devant le Stade Toulousain? Je vous poserai la question et évidemment, nous serons en direct de Cardiff, mais également en direct de Bordeaux parce que ça va être une journée de fête pour les Bordelais. Mais tout de suite, la Formule 1. Est-ce le retour du suspense à Monaco? Pour la première fois de l'histoire, deux arrêts au stand seront obligatoires lors du Grand Prix donc de Monaco qui va se disputer cet après-midi à partir de 15h. Une règle créée pour rendre cet événement plus spectaculaire, plus incertain, malgré, vous le savez, la quasi-impossibilité de dépassement en piste. Ça, la piste ne change pas. Pour aujourd'hui, on retrouve notre spécialiste Formule 1, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut JC, bonjour jeune Jean.
Salut Jean-Luc.
Ça fait du bien.
Hein. Ah oui, ça fait du bien. Oui, puis c'est un mensonge aussi. Bon bref, ces deux arrêts au stand, mon cher Jean-Luc, est-ce que ça change concrètement quelque chose?
Ah ben évidemment que oui, puisque on a vu l'an dernier notamment avec le carton qu'il y avait eu juste après le départ, il y avait eu un drapeau rouge, et donc on avait le droit de changer de pneu naturellement dans les stands, et c'est comme ça que la course a été, bon tant mieux pour Charles Leclerc qui avait la pole, a été ennuyeuse puisqu'on avait mis les pneus et qu'on a pu faire les 77 tours qui restaient. Bon, c'est un cas d'école, mais là je me suis amusé quand même à regarder un peu les stats. Alors ce qu'il y a de rigolo déjà, c'est que si on prend les 20 derniers Grands Prix, effectivement à 14 reprises, c'est le poleman qui l'emporte. Donc ça fait 70%. Pourcentage très élevé. Mais si on s'amuse à prendre les 25 derniers Grands Prix, c'est plus que 56%. Ben pourquoi? Parce que justement, en 99, la pole, c'est Hakkinen, victoire Schumacher. L'année d'après, la pole Schumacher, victoire Coulthard. L'année d'après, la pole Coulthard, victoire Schumacher. En 2002, la pole Montoya, victoire Coulthard. Et en 2003... la pole Ralf Schumacher, victoire Montoya. Alors après, bien sûr, il y a une série de 4 victoires avec le poleman. Hamilton, entre-temps, s'impose alors que Massa avait signé la pole. Et un petit peu après, on a une série de 6 victoires depuis la pole. Alors, tu vois, on peut faire dire une chose et son contraire. Alors, ta question, c'est, est-ce que le deuxième arrêt obligatoire va introduire une composante supplémentaire? Évidemment que oui. De toute manière, on ne connaît pas le déroulement de la course. On peut penser qu'il va y avoir un safety car ou un virtuel safety car, parce que à Monaco, évidemment, la probabilité est relativement importante. Dans ce cas, vous le savez bien, l'arrêt au stand est moins pénalisant qu'il ne l'est sous drapeau vert. On est aux alentours des 19 secondes sous drapeau vert, on est aux alentours des 14 secondes. Par parenthèse, d'ailleurs, à Monaco, on gagne moins, on économise moins de temps qu'on en économise à Imola. par exemple. Mais néanmoins, pour les raisons évoquées, on introduit une composante supplémentaire que personne ne maîtrise. Avant, il y avait un arrêt, par exemple, le type qui était devant, il gérait son avance, il calculait en fonction des écarts, il voyait ce qu'il pouvait mettre aux autres et il pouvait se débrouiller pour s'arrêter, quasiment pas repartir en tête, mais en se disant, au moment où les autres vont s'arrêter, je fais les fameux tours rapides avec mes pneus neufs et je vais repartir devant. Je fais ce qu'on appelle l'undercut quand tu t'arrêtes en premier ou l'overcut si tu t'arrêtes derrière. Là, c'est deux fois. Donc évidemment que tu introduis une composante que personne ne maîtrise et qui peut permettre d'avoir effectivement de l'inconnu, ça c'est sûr.
Alors ça c'est pour les spécialistes, mais justement vous, vous aimez la Formule 1, est-ce que ça vous donne plus envie de regarder ce Grand Prix de Monaco que l'on dit parfois malheureusement insipide alors que le décorum est fantastique ?
Eh bien oui, bien sûr, parce qu'il y a de la stratégie qui rentre en jeu. Évidemment, puisqu'il y a ces stratégies des deux arrêts. Tu t'arrêtes pas juste pour faire coucou à tes ingénieurs. Tu t'arrêtes parce que tu changes ton train de pneus. Donc, et c'est là que ça se joue dans la Formule 1. Donc,
oui, mais est-ce qu'une course qui se joue dans les stands est forcément plus sexy?
On veut du dépassement
en piste quand même.
Non, mais de toute manière, la Formule 1, elle se joue sur des stratégies. Donc, avec la puissance.
Oui, mais
que
ça se joue
mettre.
Pas que dans les stands quand même.
Aujourd'hui, un Grand Prix, si avec deux arrêts obligatoires, va se jouer plus à la dextérité, à la rapidité du mécano qu'au pilote en piste.
La stratégie, c'est de savoir quand est-ce que tu vas changer tes pneus, tu fais de l'overcut ou de l'undercut. C'est-à-dire, quand est-ce que tu vas choisir d'arrêter?
Mais
je vais prendre un autre exemple. On était au Grand Prix de France Moto. Pourquoi Zarco, il a pris un pari, il a gardé ses pneus pluie, et c'est pour ça qu'il gagne. Donc je veux dire, il y a de la
stratégie. C'est la stratégie, mais il l'a gagné en piste.
Mais il l'a gagné en piste.
C'est fantastique de voir piloter quelqu'un qui
est en piste. Il a fait le choix
de pas changer ses pneus et parce que quand il l'a arrêté.
Parce que derrière, il s'est aussi conduit sur la pluie. Moi, je suis désolé, mais moi, je préférais
la moto, tu peux les passer.
Quand Ayrton Senna, sous la pluie de la Principauté, ne s'arrêtait pas au stand et allait tout droit. À fond et doubler tout le monde parce qu'il avait des coronets plus importantes que les autres et la course elle se jouait sur la piste et non pas dans les stands comme c'est de plus en plus le cas. Là bientôt il va falloir faire un arrêt par tour pour essayer de relancer un faux suspense.
Mais Jean-Luc le dit, Monaco existe, c'est-à-dire aujourd'hui si tu trouves pas des subterfuges,
mais pourquoi on y arrivait avant et plus maintenant?
Il n'existe plus le Grand Prix de Monaco.
Il y a eu 12 dépassements en 2022, il y en avait combien dans les années 70? Jean-Luc, est-ce que ça a toujours été chiant comme ça, ou est-ce qu'à un moment ça a été
non.
Moi quand j'étais gamin que j'allais à Monaco, je suis désolé, il y avait un vrai spectacle, il y avait des
mais c'est un circuit qui ne favorise pas les dépassements.
Jean-Luc va répondre.
Oui, je réponds à la question. Il y a deux éléments. Premièrement, la réglementation. Aujourd'hui, dès que tu regardes méchamment un pilote, paf, tu prends 5 secondes de pénalité ou 15 000 dollars d'amende. Non, j'exagère, évidemment. Mais ça veut dire que Olivier Panis n'arrête pas de dire, il est parti 14e en 96. Je l'avais commenté en direct, cette victoire magnifique d'Olivier. Personne s'y attendait. Bon, il avait plu un petit peu, il y avait tout eu. Mais il y avait eu un scénario qui lui avait permis, avec des dépassements extrêmement musclé, il est le premier à le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'aurait pas gagné parce qu'on l'aurait imposé des pénalités. Parce que les dépassements étaient musclés. Et puis surtout, je vais le dire, les voitures, c'est devenu des camions. Des camions de 900 kilos au départ. À l'époque, ça pesait 250 kilos de moins. Elles étaient plus petites et plus légères. Donc, je réponds à ta question, mon Chris, ils osaient attaquer.
Regardez Weekend of a Champion qui, à l'époque de Jackie Stewart et tout ça, c'était des toutes petites bagnoles qui se faufilait partout et qui doublait tout le monde. Là, aujourd'hui, tu as raison, Jean-Luc. C'est quasiment des camions. Enfin, des camions qui vont à 300 km/h.
Il faut bien trouver.
Je ne sais pas pourquoi ne pas arroser la piste avant le départ du Grand Prix ou en plein milieu de la Dié. Finalement, on fait une pluie artificielle et on va voir qui tient le mieux là-dessus.
Très bien, Christophe. Heureusement, tu ne diriges pas la Formule 1. Jérôme Pinot.
Non, mais après, le sujet du jour, c'était est-ce que ça va le faire redevenir. Moi, je pense que ce Grand Prix, de toute façon, il est sexy. Parce qu'il est à Monaco, parce qu'il est différent, parce qu'il y a des virages comme nulle part ailleurs, parce qu'il y a ce fameux tunnel là. Il y a tout un tas de choses qui parlent à l'histoire. Le Grand Prix de Monaco, il est de toute façon sexy et il peut tout se passer malgré tout parce que c'est très technique et faut surtout pas, je suis pas un grand technicien de la F1, mais les gamins qui font du kart aujourd'hui, et j'en connais, rêvent de ce Grand Prix-là. Quand on parle de la F1, on parle du Grand Prix de Monaco. C'est mythique et c'est sexy. Pourquoi ? Parce que c'est différent. Aujourd'hui, Jean-Luc, ok, les voitures sont plus lourdes, c'est des camions comme tu dis, mais ce talent qu'il faut, je pense qu'il faut même pas qu'on oublie que ce sont des artistes. Et que ce Grand Prix-là permet, moi, quand même, quelque chose qui m'excite. On oublie trop souvent dans les Grands Prix l'épreuve de qualification, les essais. Mmh. Mais ça fait partie intégrante d'un Grand Prix. Et si aujourd'hui notre petit Hadjar est cinquième sur la grille, c'est grâce à ses essais, parce qu'il a peut-être pas le plus beau des camions, mais il a un talent monstre qui va certainement se révéler, ou en tout cas se révéler ce week-end.
Isaac
c'est pour
Hadjar,
ça que je trouve ça sexy.
Isaac Hadjar va partir cinquième. On a hâte évidemment de voir le prodige français. C'est son premier Grand Prix de Monaco. Ça va être incroyable. C'est à vivre à 15h. David Douillet.
Oui, moi je trouve que bon, je suis content qu'il y ait ces deux arrêts parce que ça va animer et ça laisse une zone d'incertitude qui est assez importante. Malgré tout, ça m'ennuie. Je trouve que c'est toujours ennuyeux quand l'exécutif, c'est-à-dire les organisateurs, changent des règles. Et prennent le pas sur la qualité du pilotage
de manière artificielle pour créer du suspense.
De manière artificielle. Moi, ça me gaffe parce que cette hégémonie du règlement où on en rajoute, on en retire, on en remet, etc. Tout ça, pourquoi en fait ? Mais c'est pour la télé, c'est pour le spectacle, etc. Oui. Pour moi, à Monaco, le spectacle se suffit à lui-même. Regardez, vous venez de parler de la séance d'essai. Vous avez mille fois raison. Regardez ce qui s'est passé. On parlait d'Hadjar. Vous avez raison. Il frôle dans la chicane trop près les balustrades, paf, il éclate un pneu, boum, c'est terminé. Enfin, ça peut arriver pendant la course à n'importe quel moment. Jean-Luc parlait des safety cars et des drapeaux rouges, mais laissez cette incertitude-là, elle se suffit à elle-même pour donner le piment, tout le piment de cette course. Et vous savez bien que dans une course de F1, il y a plusieurs courses. Il y a celle des 3 ou 4 premiers, il y a celle du milieu, il y a celle de la fin, avec des écuries qui ont des batailles dans différents domaines. Voilà. Et ça, c'est beau pour moi, la F1. C'est dommage qu'on ait... Je trouve qu'on aseptise les courses avec trop de réglementation.
Ok, tout le monde n'est pas convaincu, mais sachez qu'on va pouvoir admirer ce que ça donne. Ces deux arrêts au stand obligatoire, c'est sur le Grand Prix de Monaco, aujourd'hui, à vivre avec Jean-Luc Roy à partir de 15h, avec Lando Norris qui partira en pole position, Charles Leclerc qui a gagné l'année dernière. Il part deuxième, pour lui c'est un miracle. On espère que ça va bien se passer pour le pilote monégasque, et puis Isaac Hadjar, je le disais, cinquième, incroyable, Isaac Hadjar. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport, l'UBB, champion d'Europe. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.